Radio Okapi. Parité et famille. Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver pour vous présenter Parité et Famille, votre magazine qui s'intéresse aux questions liées au genre et aussi à la famille. Nous parlons aujourd'hui de la loi sur la parité adoptée et promulguée depuis 2015. Pour rappel, cette loi a pour but la promotion de l'équité du genre et de l'égalité de droits de chance et des sexes dans toute la vie nationale, notamment la participation équitable de la femme et de l'homme dans la gestion des affaires de l'État. Où est-ce qu'on en est avec cette loi sur la parité? Quelles sont les raisons qui freinent son application? Et surtout, comment les hommes et les femmes s'impliquent pour la rendre effective? C'est autour de toutes ces questions que se penche Parité et Famille de ce jour. Encore une fois, bienvenue à tous. Quelles sont les grandes lignes de cette loi du 1er août 2015 portant modalités d'application de droits de la femme et de la parité? Thérèse Cancou, où pourrons savoir un peu plus?
Vous l'avez dit, Nicole, nous restons sur les grandes lignes de cette loi qui comprend 38 articles regroupés en 5 chapitres. Dans son article premier, la loi sur la parité fixe les modalités d'application des droits de la femme et de la parité homme-femme conformément à l'article 14 de la Constitution. Ces droits concernent, entre autres, l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, ainsi que la protection et la promotion de ses droits, une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales, la parité homme-femme. L'article 2 stipule que les dispositions de la loi sur la parité s'appliquent à tous les domaines de la vie nationale, notamment politique, administratif, économique, social, culturel, judiciaire et sécuritaire. Le point 11 et l'article 3 des 7 lois dit, je le cite, « parité homme-femme, égalité fonctionnelle qui consiste en la représentation égale entre les hommes et les femmes dans l'accès aux instances des prises et décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie nationale, sans discrimination. » Outre les principes du nombre, elle indique aussi les conditions, les positions et les placements. Fin des citations. Dans son article 6, l'État adopte des stratégies spécifiques afin d'assurer des possibilités égales de participation entre les femmes et les hommes à tous les processus électoraux, y compris à l'administration des élections et au vote. Il veille à ce que les hommes soient inclus dans toutes les activités concernant les genres et la mobilisation des communautés. Et pour terminer, Nicole, sachez qu'en application de cette loi, des mesures nécessaires à la correction des inégalités existantes sont prises pour l'exécution progressive de la parité homme-femme au moyen de la discrimination positive dans tous les domaines publics et privés.
Merci Thérèse Cancou pour ce résumé. Nous avons joint depuis Bounia en Ituri, Madame Faïda Mwangiloa, consultante en genre et ancienne ministre de la Condition féminine et famille. Elle nous dit ce qu'elle en pense de cette loi sur la parité.
C'est une loi qui était vraiment attendue par beaucoup de femmes et surtout les activistes des droits humains. Mais malheureusement, c'est une loi qui nous pose problème parce qu'elle ne nous a pas permis d'avancer en termes de représentation des femmes. Parce que depuis la promulgation de l'actuelle Constitution, la Constitution qui régit nos institutions aujourd'hui, en février 2006, cette Constitution avait apporté des innovations de taille. L'une des innovations, c'était l'inscription du principe de parité homme-femme dans la Constitution en son article 14. Et dans ce même article, il était dit qu'il y aura une loi organique qui sera prise. Et c'est la loi de mise en œuvre de la parité. Donc la loi de mise en œuvre de la parité, qui était une loi pour accélérer la participation des femmes dans la gouvernance du pays, cette loi ne nous a pas avancé. Depuis sa promulgation en 2015 et jusqu'à aujourd'hui en 2018, presque 3 ans, il n'y a pas d'avancée. Vous avez des gouvernements qui n'ont pas de femmes, des gouvernements provinciaux. Vous avez ailleurs, même lorsqu'il s'agit de la loi électorale qui devrait nous aider à faire avancer la participation des femmes au niveau politique, cette loi ne nous a pas aidés parce que la loi portant organisation des élections ne pouvait même pas se référer à la loi portant mise en œuvre de parité. Parce que la loi de mise en œuvre de parité s'agissant de la participation politique de la femme nous a renvoyé aux mêmes dispositions qui ne rendent pas obligatoire, contraignante, la participation des femmes au niveau politique. Voilà, madame, je dois vous avouer que nous sommes devant une difficulté et nous avons d'ailleurs déposé une requête en inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, mais malheureusement, on n'a pas de suite. Plus d'une année après, on n'a pas de suite. Donc, nous restons en éveil et nous sommes en train maintenant de travailler avec notre actuel ministre Dijan pour voir dans quelle mesure faire fonctionner les deux organes dont parle la loi portant modalité d'application des droits des femmes et de la parité.
Vénantia Bissimoua est sociologue de formation. Elle coordonne le réseau des femmes pour le droit et la paix, une organisation de défense des droits humains et de lutte contre les violences faites à la femme. Son domaine de recherche est la participation politique de la femme. Elle nous donne aussi sa lecture sur la loi sur la parité.
Nous savons que ces principes constitutionnels de la parité homme-femme découlent de la Constitution, de la Constitution de 2006. Et donc, c'est dire donc que ça pouvait être d'application déjà à l'occasion des élections qui ont déjà eu lieu à deux reprises dans notre pays. Mais on pouvait aussi le voir à partir des politiques et programmes que le pays et les différents ministères pouvaient mettre en application. Nous n'avons pas l'impression que le nombre de femmes dans différents secteurs de la vie, et notamment dans la politique, nous n'avons pas l'impression que le score des femmes augmente, ni même que la participation de la femme augmente.
Journal des élections, un espace de diffusion d'informations liées au processus électoral en RDC. Agenda électoral, enrôlement des électeurs, rétrospective de la semaine et plus encore. Suivez ce magazine chaque vendredi dès 15h30 à 16h sur Radio Capi.
Mais quelles sont les raisons qui freinent l'application de cette loi sur la parité? Eh bien, pour Madame Vénantia Bissimoua, les lois votées n'émanent pas souvent de la volonté politique des acteurs étatiques. C'est suite à la pression extérieure que ces lois sont souvent votées et cela freine leur effectivité.
Au Congo, on a c'est vrai du mal à appliquer les lois. Nous votons les lois comme juste pour faire une bonne conscience. Et nous avons noté aussi que souvent au Congo, nous appliquons les lois suite à des pressions extérieures. L'État congolais prend des engagements au niveau international pour se faire bonne conscience ou pour faire comme les autres ou alors pour éviter certaines pressions. Il vote certaines lois en conformité avec ses engagements internationaux, alors qu'à l'intérieur, les acteurs étatiques ne sont pas prêts à rompre avec leurs convictions personnelles, parce que finalement, ils dirigent avec leurs convictions personnelles, leur volonté personnelle, et ne se laissent pas guider par les lois qui ont été votées dans le pays. Ça, c'est une chose. Mais aussi, si une fois qu'elles n'ont pas respecté les lois, il n'y a aucune punition, il n'y a aucune répression, il n'y a même pas une interpellation pour dire que vous êtes en faute, vous n'avez pas respecté la loi. Donc, il y a ce fait-là de la mode, de la pression extérieure, pour se faire bonne conscience et pour éviter les pressions extérieures. Et puis en plus, l'impunité au niveau du pays. Donc au niveau des organes du pays, parce que nous avons des institutions qui sont pourtant indépendantes sur le plan du principe, mais dans la réalité, ces institutions ne fonctionnent pas de façon indépendante. Le secteur judiciaire qui doit faire son travail à côté du secteur législatif, à côté de l'exécutif, ces trois appareils se fondent finalement en un seul, qui est l'exécutif, hein, alors que chaque institution devait jouer son rôle. Et c'est cela qui permet à un pays de fonctionner, parce que chaque secteur contrôle l'autre, hein, permet à l'autre de réaliser sa part et contrôle l'autre. Mais c'est cela que nous ne voyons pas. C'est ça ce qui arrive chez nous. Et la population ou les acteurs de la société civile, qui devaient être aussi une pression sur les secteurs étatiques, ne jouent pas suffisamment son rôle aussi. Ils s'alignent aussi souvent du côté de l'exécutif. Ah donc, nous avons là un grand problème au niveau de l'élite aussi chez nous. Nous avons un grand problème. Donc, nous devons nous remettre en cause. Pourquoi sommes-nous élites? Où est-ce que nous voulons notre société? Quelle est la mission de l'élite? Quelle est la mission de chaque Congolais? Ça, c'est très important. Nous avons un problème spirituel réel en RDC.
Pour Mme Faïda Mwangilwa, c'est plutôt un problème sociologique dû aux pesanteurs culturelles.
Je vous dis, dans la question du genre, c'est une question sociologique. Parce que ça se transmet au niveau des communautés. Et il y a une sorte de pérennisation des discriminations basées sur le sexe. Dire à un citoyen qui a grandi dans la discrimination liée au sexe, dans sa famille, on a discriminé sa sœur. Ce n'est pas dans la communauté, une fois responsable, qu'il va comprendre qu'il faut donner de l'importance à la matière liée au genre. Donc nous sommes là devant une réalité sociologique qui demande un temps pour le changement. Et quand vous allez, lorsque nous sommes dans nos plaidoyers au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, les gens sont unanimes, peu importe leur appartenance politique, leur appartenance sociale. Donc nous comprenons que c'est un problème culturel. Et pour autant que ça restera un problème culturel, sans y apporter des innovations, nous allons continuer toujours à vivre ces discriminations-là. Si les différenciations ne sont pas les mêmes en termes de villes ou de provinces, je te dis dans les coins du pays, si vous êtes ici dans cette ville où moi je me trouve, je suis à Ituri, vous allez vivre la situation des femmes. Je vais vous dire que les discriminations sont énormes. Il y a bien sûr des efforts au niveau du gouvernement. J'ai essayé de me renseigner ici par rapport à la représentation des femmes. Bien sûr, il y a deux femmes au gouvernement. Oui, c'est déjà une bonne chose. Mais on doit aller plus loin. On doit aller plus loin et opérer ce que nous appelons le principe de discrimination positive. On ne doit pas rester muet par rapport à cela. Et moi, je crois que on doit continuer à travailler, appeler beaucoup plus d'hommes à travailler pour l'agenda des femmes. Et dans nos formations, nous faisons participer les hommes, comme là nous sommes en train d'animer une formation en rapport avec la gestion des organisations communautaires. Et cette formation est appuyée par la Fondation OSISA, mais nous faisons participer les hommes responsables des organisations communautaires. Parce que si ils sont sur le terrain, ils appliquent la non-discrimination liée au sexe, je crois que on vivra des avancées d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Mais si les hommes ne participent pas à la lutte, on attendra longtemps. Voilà la nouvelle stratégie que nous essayons de mettre en place ces derniers moments où il y a 5 ans, nous sommes là sur terre.
De son côté, le professeur Lututala explique les raisons de la non-application de cette loi par les pesanteurs socioculturels et l'approche utilisée pour parvenir à cette loi. Il est ancien recteur de l'UNIKIN et dirige actuellement le Centre de documentation de l'enseignement supérieur et universitaire et de recherche à Kinshasa.
Ce que j'en pense, c'est que bon, c'est surtout pas un problème des femmes, hein. Ça c'est clair. Au contraire, c'est grâce aux femmes que cette loi a été signée. Ce sont les femmes qui ont vraiment fait pression pour qu'on y arrive. Et donc, ça peut pas être leur faute. Je pense qu'il y a deux problèmes. Celui évidemment des pesanteurs socioculturels et celui d'approche. De l'approche qu'on a utilisée pour en arriver à cette loi-là. Voilà, je vais y arriver. Alors, les pesanteurs socioculturels, bon, nous les connaissons tous. Nous sommes ici en face de quelque chose qu'on peut appeler une révolution culturelle. Et toute révolution culturelle, tout ce qui touche à un changement de comportement et de mentalité dans une société, ça prend du temps. On ne peut pas arriver d'un coup à ce que les choses bougent du jour au lendemain. Ça a mis des siècles pour être ce qu'elles sont, ces choses-là. Et il faut du temps pour que, effectivement, des changements notables puissent être observés. Et ces changements doivent être accompagnés par des changements sur le plan économique et sur le plan politique. Par exemple, la situation économique, la situation de pauvreté, la situation de manque d'instruction ne change pas dans le pays, il est difficile que des changements culturels puissent advenir. Et donc, c'est un tout qui est en train de bouger et ça prend du temps pour que cela puisse se faire. Ça finira par arriver, je pense. Ça finira par arriver, mais pour le moment, même ceux qui ont pris la décision, qui ont signé la décision ou qui sont censés appliquer cette loi n'y croient pas. Je suis certain de ce que je dis. Ils n'y croient pas ou ils le disent parce qu'ils signent, parce que bon, il faut bien qu'ils répondent à une certaine pression sociale. Mais eux-mêmes n'y croient pas. Et si vous regardez leurs actes au quotidien, ils sont loin d'être des hommes genrés. Donc, c'est un travail de longue haleine qu'il faut mener. Deuxième approche, lorsqu'on a pris la loi, est-ce qu'on a tenu compte de toutes ces pesanteurs-là pour que la loi qui devait être prise puisse se baser sur ce contexte socioculturel? Je ne suis pas sûr de cela. Parce que quelles sont ce qu'on appelle en droit les mesures d'application de cette loi-là? C'est ça, c'est là où il aurait fallu travailler. Par mesure d'application, on entendrait par exemple une certaine obligation qui devait être faite à l'école pour que les programmes d'éducation, les programmes scolaires puissent tenir compte justement de cette loi, que la parité commence déjà à être vécue au niveau des écoles, même au niveau de l'école primaire. Est-ce qu'il y a eu des mesures d'application pour qu'au niveau de la famille, au niveau des parents, au niveau des enfants, entre enfants garçons et enfants filles, etc., que les inégalités de genre qui sont observées à ce niveau-là ne puissent pas être connues? Est-ce que des mesures d'application ont été prises pour qu'au niveau des églises, où justement les discours restent les mêmes, femmes, soyez soumises, etc., quelles sont les mesures qui ont été prises pour que ce discours-là, au niveau des églises, puisse être changé? Vous voyez, évidemment, on ne va pas changer ici la Bible, mais il y a une nouvelle façon maintenant de voir la société qui devait être là. Donc voilà toutes ces mesures d'application qui n'ont pas été prises et qui font que la loi en elle-même ne peut pas arriver à changer radicalement la situation. Donc c'est pour ça, à mon avis, que ça traîne.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique au cadre de l'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires.
Connectons-nous. Faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 62 91 154.
Ou alors par mail à femmeleaderrdc@gmail.com.
Vous êtes sur Radio Okapi, vous suivez le magazine Parité et Famille qui s'intéresse aujourd'hui à la loi sur la parité. Est-ce que la femme ne s'implique pas assez pour la gestion de la chose publique? On écoute une fois de plus Faïda Mwangiloa que nous avons joint depuis Bounia. Elle est consultante en genre.
Non, dire que la femme ne s'implique pas dans la gestion de la chose publique, c'est vraiment prendre le langage courant, ce qui circule dans la rue. Mais allez dans les partis politiques, vous allez trouver que ces partis sont animés par des femmes. Allez dans les entreprises publiques, vous trouvez des femmes qui répondent aux critères. Donc, mais ici, lorsqu'on parle de la parité dans tous les secteurs de la vie nationale, c'est la loi portant modalités d'application qui devrait définir les modalités même de la mise en œuvre du principe de parité inscrit dans la Constitution. Donc voilà ce qu'on attendait. Mais parce que la loi portant modalités d'application n'a pas donné des avancées, c'est comme ça que vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous continuons à travailler. Tel que je te parle là, je suis loin de la capitale de la RDC pour parler avec les femmes et nous sommes là, nous sommes disposés à donner toutes les informations, toutes les énergies pour dire aux femmes, vous devez vous engager, vous devez vous distinguer, que ce soit dans les entreprises publiques, que ce soit dans les entreprises privées, travaillez d'arrache-pied. Peut-être que vous tomberez devant des gens de bonne foi qui vous diront, oui, cette femme mérite, elle doit être là. Voilà ce que nous recherchons actuellement, mais nous ne devons pas croiser les bras. Les femmes sont là, mais aussi parce que notre Constitution a inscrit le principe de parité on ne doit pas seulement parler de la mise en œuvre, mise en application des dispositions constitutionnelles quand il s'agit d'autres matières, mais quand il s'agit de la représentation des femmes, ça devient une question taboue ou qui rejoint l'unanimité de tout le monde. Et là, nous ne sommes pas d'accord comme activistes des droits des femmes, comme experts qui travaillent sur le terrain et qui comprennent que non, sans les femmes, on ne peut pas avoir, en tout cas, une bonne gouvernance dans ce pays. Sans les femmes, on ne peut pas entamer les processus de développement. Si vous êtes à l'intérieur des provinces, madame, vous comprendrez combien les femmes se sacrifient pour le bien-être des communautés, pour le bien-être des populations, pour le bien-être des enfants. Donc, raison de plus, les États qui font un effort pour faire appliquer les lois en matière de représentation des femmes, en tout cas ces nations, vont plus loin. Et nous espérons que nos institutions pourront un jour nous joindre pour dire il faut donner de la justice aux femmes, de la justice aux filles.
Alors, que faire pour impliquer suffisamment la femme dans l'appropriation de cette loi sur la parité? On écoute à cet effet Venancé Abissimoy, qui, je le rappelle, est coordonnatrice du réseau des femmes pour le droit et la paix, une organisation de défense des droits humains et de lutte contre les violences faites à la femme basée à Bukavu, au sud Kivu.
Moi-même, j'ai analysé la question de la parité politique de la femme en prenant dans l'angle de des actions des collectifs de femmes, des femmes qui agissent ensemble. C'est vrai que du côté des femmes, leurs actions pour pousser à ce qu'elles puissent améliorer leur participation politique ne sont pas suffisantes, n'inquiètent pas les décideurs. Là, c'est du côté des femmes. C'est-à-dire les femmes devaient mener des actions collectives, des actions aussi qui exercent une pression suffisante pour que les décideurs, dans la majorité sont des hommes, puissent être obligés d'appliquer des lois qui existent, de prendre des mesures, de prendre des politiques et des stratégies pour faire participer les femmes. Ça, c'est dans le côté plaidoyer et lobby des femmes où nous sentons qu'il y a une faiblesse. Mais nous savons aussi que les dirigeants sont tenus aussi à appliquer les lois qui ont été votés et qui doivent guider leur action. Les dirigeants doivent se soumettre à la loi. C'est la loi qui oriente leur action et pas leurs convictions. Pas leurs convictions, que ce soit religieuse, coutumière, c'est pas cela qui devait orienter leur action, mais seulement les lois. Parce que les lois, la constitution qui a levé cette option, c'est ça le contrat. C'est ça le contrat que le peuple et les femmes y compris ont avec les dirigeants. Et ça, dans le chef des dirigeants, nous sentons que ils continuent à diriger sur la base de leurs propres convictions. Où les dirigeants prennent les femmes, pas comme des membres de la communauté, et des femmes pouvant aussi participer à la gestion du pays, comme des concurrentes, et pas comme des ressources, qu'on devrait mettre à contribution pour contribuer au développement du pays. Ça, c'est un problème. Et les lois, là, nous voulons dire que les lois que nous mettons en place, finalement, nous les mettons juste pour la forme. Ce n'est pas finalement pour que nous puissions tous nous y soumettre et que nous puissions atteindre les objectifs de développement que le pays devait s'assumer d'ailleurs en les définissant clairement peut-être et avec quels moyens on va y arriver. Peut-être que c'est à ce prix-là que les gens devaient comprendre que nous devons respecter les lois. Mais je veux dire aussi ceci. Oui. Si on ne respecte pas les lois, nous ne respectons pas les lois, mais nous nous empressons à les voter. Pendant que la participation de la femme à la sphère publique n'est pas encore suffisamment valorisée, on n'a pas encore sensibilisé et les acteurs étatiques et les acteurs privés et toute la population sur la bien fondée, sur l'importance de faire participer la femme, on s'empresse à voter des lois. Nous devons faire un effort et du côté des femmes et du côté des dirigeants pour rendre la représentation des femmes dans les instances de décision une norme, une valeur, de sorte que la loi va suivre et elle va s'appliquer si déjà on vit cela comme une valeur. Les femmes doivent revoir leurs actions. Il faut qu'elles aillent dans des actions qui fassent un peu pression, qui fassent pas même un peu, beaucoup pression à l'acteur politique pour qu'elles puissent obtenir des changements souhaités. Sans cela, nous n'aurons pas ce changement souhaité. Nous avons l'impression que les femmes s'alignent du côté de celui qui a le pouvoir. Du côté de celui qui a le pouvoir et pas lutter pour une cause. Parce que la cause de la femme, c'est une cause de la société. C'est une cause nationale. Elle devait lutter pour cette cause nationale parce que la représentation des femmes dans le sens des décisions, c'est un apport qui va venir, une autre sensibilité qui va venir. Mais on reconnaît, nous avons aussi vu ça dans les études, que la femme est reconnue comme bonne gestionnaire. La femme amènerait sa qualité de bonne gestionnaire dans les affaires publiques. Nous attendons cela. Et donc les femmes ne doivent pas croire qu'on va nous servir, qu'on va les servir sans pression. On ne peut pas mettre la femme au pouvoir sans suffisamment de pression. L'espace politique, c'est un espace de positionnement politique, de positionnement et de conflits. Les femmes ne doivent pas avoir peur de conflits. Elles doivent faire des conflits à occuper cet espace aussi, parce qu'elle a nos droits.
Et nous allons terminer avec le professeur Bernard Loutoutala, qui invite les hommes et les femmes à s'impliquer davantage pour faire avancer cette loi.
Autant elles se sont mises pour que la loi soit là, autant elles doivent se mettre avec des hommes genrés, parce que c'est peut-être ça aussi l'erreur que nous commettons. Les combats contre les inégalités de genre ne va pas être gagné avec les femmes toutes seules. Ça, c'est hors de question, ça n'arrivera jamais. Ce combat-là ne sera gagné que si les hommes sont impliqués dans le processus. Parce que tout compte fait dans notre société, malheureusement, il faut le reconnaître, c'est encore des sociétés masculinisées. C'est encore les hommes, ce sont encore les hommes qui décident sur la conduite de la société, sur c'est eux qui sont les chefs de ménage, c'est eux qui sont les chefs de famille, c'est eux qui sont ceci, qui sont cela. S'ils ne sont pas impliqués dans tous ces combats-là, il est évident qu'on ne peut pas espérer une réussite quelque part.
La fin de notre magazine, nous parlions de la loi sur la parité. Je suis Nicole Koudiangela. Bob Landou a assuré la mise en onde de ce magazine qui a été supervisé par Thérèse Kankou. Merci et on se retrouve pour le prochain numéro.